Voilà, Kubrick n'a qu'à bien se tenir où qu'il soit.
L'image que vous avez vue de Zarathoustra, elle était tournée en fait en 1964, alors que nous étions encore lycéens et on avait fait un premier film dans lequel il y avait entre autres cette séquence. Et la grande nouvelle de ce soir, c'est que Zarathoustra est dans la salle. Alors Pierre, je ne sais pas où t'es, si tu veux bien te lever. Voilà, bravo, Zarathoustra. Bon, alors le second film est un peu plus sérieux, un peu plus intimiste. Alors bon, j'ai eu la chance dans le tournage de ces films et dans ces expéditions d'avoir des très très bons copains qui m'ont toujours laissé faire un peu n'importe quoi et plutôt soutenu que... Et j'ai vu après dans les tournages, c'est pas toujours facile quand on est avec des équipes qui sont pas hyper soudées, etc. Souvent, on est obligé quand même de courir derrière ou d'expliquer ce qu'on fait, etc. Et là, j'avais la confiance complète. Alors, le copain qui est là ce soir, qui est dans les deux films que vous allez voir, Concerto d'Alaska, Un pic pour Lénine, et qui était bien sûr dans l'aventure d'Annapurna, premier 8000 à ski, c'est Benoît Renard. Benoît, si tu veux bien te lever. Vous avez remarqué que c'est chapeau obligatoire dans cette équipe. Alors je sais que Benoît, allez, on va dire les choses. Benoît, la première version du film qui existait, qui était un film conférence, dans lequel, on s'était fait plaisir, hein, on avait fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, quoi. C'est-à-dire qu'on avait pris les Pink Floyd, Inagada Davida, la chanson de Charlebois, etc., etc. Donc c'était un film qui était très, très sympa sur le plan musical, etc. Ce film, je sais, plaisait beaucoup à Benoît. Et puis, 10 ans après, j'ai repris donc ces rushs pour refaire ce film. Bon, qui est un film achevé, puisque le premier, on peut dire, il n'y avait pas de son sur l'image, quoi. On faisait le commentaire comme ça à chaque fois quand on passait le film. Et ce film, je lui ai donné un tour plus intimiste, plus personnel, donc peut-être plus frustrant pour mes copains d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, c'était l'anniversaire de ma grande fille, Denali, qui s'appelle Perrine Denali. C'était son 10e anniversaire, et je me suis dit, au fond, c'est la fille de l'Alaska, elle est née juste après l'expédition. Je vais consacrer peut-être un film qui ait un certain romantisme, une certaine sentimentalité et surtout beaucoup de nostalgie. Parce que je crois quand même que cette première expédition qui était celle de notre équipe quand elle s'est formée en 1971 pour faire la face sud du Denali, c'était un objectif complètement délirant. Ça fait quand même 3000 mètres, ça fait 10 faces nord des Grandes Jorasses, les unes, 3 faces nord des Grandes Jorasses, les unes au-dessus des autres, quoi. Donc, on avait 25, tous entre 25 et 30 ans. C'est un objectif un peu complètement disproportionné. Aucun Français n'avait été se promener là-bas pour une expédition de cette envergure. Donc, Je me suis dit, cette expédition où tout s'est bien passé, où on gardait chacun de nous quelque chose de très très fort, mais vraiment de très prussien sur le lien de l'équipe, je me suis dit, au fond, il faut faire quelque chose qui soit à l'inverse de ce que j'avais fait avec les deux autres films. Parce que faut voir que la branche existentielle sur laquelle j'étais, ça faisait 2 fois que je la sciais. Bon, la branche existentielle, pour moi, c'est la montagne. Je veux dire, la montagne m'a apporté la possibilité, bien sûr, d'être guide, mais aussi m'a apporté le cinéma, la musique, la philosophie, la poésie, tout à la fois, puisque j'ai eu la chance de commencer avec un enseignant d'éducation physique qui était instructeur de la Fédération française de la montagne, qui faisait du cinéma 16 mm, qui nous passait ses films quand il pleuvait, les jours de mauvais temps, et qui était un passionné de philo. Il avait été déporté et il y avait une richesse intérieure très, très forte, un passionné de musique aussi. Donc en fait, j'ai tout pris, quoi. Voilà. Et cette branche existentielle, je l'ai sciée en fait deux fois par les deux films d'avant, c'est-à-dire par Annapurna, premier 8000 à ski, puisque c'est quand même un film de dénonciation d'une certaine forme d'himalayisme et de rapport à l'Orient, le choc Orient-Occident, lorsqu'on arrive et qu'on peut embaucher d'un seul coup 200 personnes pour porter notre matériel, il y a quelque chose d'un peu excessif là-dedans. Et puis Un pic pour Lénine, où il s'agissait d'essayer de comprendre les liens qu'il y a entre sport et idéologie, et le fait qu'il peut y avoir une véritable aliénation dans ces pratiques-là, et dans toutes les pratiques de haut niveau. Et c'est la question aussi des Jeux Olympiques qui est posée. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que représentent les nationalismes? Voilà. Donc, je scie deux fois ma branche, et là, je me dis, il faut que je reconstruise quelque chose. Et ce que je reconstruis, bah, c'est le film que vous allez voir, c'est Le Concerto d'Alaska, avec une recherche sur la musique qui était, en fait, j'ai essayé de voir quelles étaient les musiques qui traduisaient le mieux à la fois des formes de nostalgie et d'aventure de la vie, en quelque sorte. Et on sait que la vie de Chopin, elle n'a pas été simple. Et sentimentalement, non plus, elle n'a pas été simple, comme nous tous. Voilà. Et j'ai trouvé, je me suis centré sur Chopin, et j'ai trouvé que dans certains moments des musiques pour piano de Chopin, que certaines ont été réinterprétées ou arrangées à l'orgue, il y avait quelque chose qui correspondait vraiment à cette vibration-là. Je ne sais pas si vous allez vibrer.
C'est bon, oui, vous entendez? Bon, c'est moins facile peut-être de reprendre la parole après celui-là.
Oui, bon. C'est. Je crois que celui est.
C'est mieux?
Oui. Okay. Oui, c'est un peu difficile de descendre du cosmos d'une certaine façon. Hein. Je crois quand même que je n'ai jamais retrouvé ce ciel qui est le ciel que Marcel Ishaq, en fait, traduisait par Les Étoiles de Midi, ce film qu'il a fait, Les Étoiles de Midi, et qui suppose qu'on puisse voir les étoiles en plein jour, à travers, en quelque sorte, le cosmos. Et je veux dire, on est monté juste avant la tempête polaire, on a eu beaucoup de mal à descendre, parce qu'on était pris vraiment par la tempête, et il y a justement, avant la tempête, cette absorption de la totalité de l'humidité, et c'était un ciel d'une pureté, d'une pureté absolue, qu'on peut, voilà, l'impression d'être vraiment dans le cosmos, quoi. Et c'est pas un effet de la pellicule, Je veux dire, le ciel était noir, mais par transparence, en quelque sorte, voilà. Alors, un pic pour Lénine. Alors, un pic pour Lénine, c'est une autre aventure. Bon, c'est une aventure qui... Ça, c'est 1971. Le pic Lénine, nous y étions en 1974. Donc, c'était le 50e... C'était à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Lénine. Je crois qu'on a marqué bicentenaire dans les programmes. Bicentenaire de la mort de Lénine, non. Il n'a pas vécu pendant 150 ans. C'était le 50e anniversaire de la mort de Lénine, 1974. Et à cette occasion, la Fédération soviétique d'alpinisme avait organisé un rassemblement international au pied du pic Lénine. Et on se retrouve à 11 nations différentes, avec beaucoup d'alpinistes parmi les meilleurs des différentes nationalités. On se retrouve tous dans le camp Pamir qui est au pied du pic Lénine et on était 117. Et sachant la façon dont ça allait se passer, nous on a évidemment un projet qui était de faire une voie nouvelle dans l'un des éperons du pic Lénine, ce que nous avons fait, de monter ensuite au sommet et de le descendre à ski, ce que nous avons fait aussi, mais seulement il s'est passé bien d'autres choses. C'est que sur les 117, il y a eu au total 13 morts. Et on s'est retrouvé entre nos différentes ascensions, nos différentes descentes, etc., presque constamment en sauvetage. On a été chercher des alpinistes américains qui étaient isolés à cause d'une chute de sérac dans le pic du 19e congrès. Ça a été toute une aventure, hein, Benoît, pour réussir à descendre cette équipe d'Américains qui avait perdu ses piolets, ses chaussures, etc., etc. Voilà. Et puis, il s'est trouvé qu'à la fin, il fallait repartir pour un autre sauvetage, parce qu'on apprend que l'expédition féminine soviétique de 8 femmes était en perdition sous le sommet du pic Lénine. Donc on repart, mais cette fois le sauvetage on le réussit pas. On part avec des alpinistes anglais, dont Doug Scott, des alpinistes russes, qui étaient des gens très très forts, les fameux léopards des neiges qui ont fait plusieurs 7000, etc. Seulement la tempête est telle, c'est inabordable, et à la radio on les entend mourir les unes après les autres jusqu'à la dernière, ce qui était une chose absolument dramatique. Et moi j'étais parti avec un projet de film qui était, je m'étais dit, être à 110 au pied du pic Lénine, avec les drapeaux de toutes les nationalités, etc., et tout ce folklore un peu nationaliste, on va dire, ces espèces de jeux olympiques au pied du pic Lénine, ça va être un grand cirque, ça va être vraiment le cirque. Et puisqu'on passe par Moscou, je vais essayer d'aller filmer des images au cirque de Moscou et je vais montrer qu'en fait, dans ce camp de base, tous les alpinistes font leur cirque et que j'étais parti pour faire un grand film de cirque, un grand film un petit peu dérisoire, comme ça, qui montre que, au fond, ces grands rassemblements internationaux, ça n'a pas beaucoup de sens si ce n'est que chacun essaie de briller. Or, le fait que chacun essaie de briller, c'est peut-être ce qui a coûté la vie aux femmes soviétiques. Le fait que ce soit le pic Lénine aussi, et non pas, je dirais, le Mont Rose, avec ce que Lénine peut représenter. Il fallait voir que quand on revenait du sommet, on avait droit à la médaille Lénine. Donc tout ça, c'est une tragédie. Une Suissesse meurt d'épuisement, un Américain emporté par les séracs, 3 Estoniens dans la face est qui disparaissent dans une avalanche, et puis les 8 femmes. Donc quand je reviens, je me dis, mon film de cirque, c'est pas la peine, on a laissé les rushs dans les tiroirs. Et puis après l'aventure de l'Annapurna, C'était 1980, c'était le moment où tout le monde se demandait « Faut-il aller aux Jeux Olympiques de Moscou ?» Parce que, vous le verrez, les Russes attaquent, ils passent par les très belles routes qui nous ont emmenés au pied du pic Lénine, elles étaient faites en fait pour l'invasion de l'Afghanistan. Donc il se posait une question, je dirais, politique majeure, une question qui était de savoir, au fond, qu'avaient ces femmes dans la tête au moment où elles ont pris une succession de mauvaises décisions, quelle éducation elles avaient eue à propos de Lénine, quel était leur statut de sportive soviétique exactement. Et on a fait quelques recherches avec des livres pour enfants, qui sont les livres qu'elles ont pu avoir entre les mains. On a fait des recherches entre les œuvres du réalisme socialiste et les œuvres de la grande orthodoxie, notamment les icônes. Et par assimilation, par recoupement, par association, etc., avec deux monteurs formidables qui sont Henri Etzik et Philippe Fausten, qui sont en fait des réalisateurs de cinéma d'animation, on s'est dit la question est complexe, on va la traiter d'une manière complexe, très impressionniste, et on va essayer d'avoir un rapport fond-forme du film qui nous permette de comprendre comment un ensemble de choses nous rentre dans la tête et qui font qu'à un moment donné, on prend les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. Et ça, c'est une question majeure, je dirais, en Himalaya. Parce qu'à partir du moment où on commence à être privé d'oxygène, à partir de 6 500, 7 000, bon, il y avait encore plus à 8 000 mètres, mais là, le pic Lénine fait 7 000 mètres, les décisions qu'on prend, elles sont vraiment sous influence, et certainement sous influence d'un ensemble de choses qu'on a pu vivre. Alors on s'est dit, on va essayer de voir comment les choses nous rentrent dans la tête, comment elles sont rentrées aussi dans la tête de ces femmes-là, et c'est complexe, donc on va utiliser toutes les possibilités que nous donne le cinéma d'animation, images découpées, images requinquées, et vous verrez, ça donne une sorte de film, bon, à l'époque je le disais expérimental, mais en définitive, lorsqu'aujourd'hui on voit comment les dirigeants russes se mettent en scène avec la grande orthodoxie, ben je me dis qu'au fond, le côté christique de Lénine, il a été largement récupéré aujourd'hui, et peut-être que ce film, en fait, il nous dit ce qu'on est en train de vivre. Et les Jeux Olympiques arrivent, et on peut se poser des questions.
Voilà.
Quand je revois ce film avec vous, je me demande par quel cataclysme mental je suis passé à un moment donné de mon existence.
Bien. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Et qu'est-ce que vous avez à dire, vous?
Moi, je crois qu'il faut laisser la parole à salle, hein, maintenant.
Oui, oui, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Est-ce qu'il y a des... Oui. Attendez, est-ce que c'est enregistré? Donc comme ça, il y aura les...
J'aurais aimé savoir qui est la personne qui parle avec cet accent russe. Quelle est cette femme?
Je ne comprends pas, là.
Pendant le film, là, on a une voix de femme qui s'exprime au nom des alpinistes russes.
Oui.
Et qui est cette femme?
Oui, alors, bon, évidemment, c'est le réalisateur qui parle, hein, sans doute. C'est une voix de comédienne. Oui, j'ai pris cette espèce de je ne sais pas si on peut appeler ça une liberté ou de faire parler les morts. Voilà. Alors, il y a un livre qui a été fait qui s'appelle « Ici Elvira, vous m'entendez ?» qui est relativement récent. C'est un livre que j'ai préfacé, qui est un livre de Mirella Tanderini qui a été fait aux éditions du Mont Blanc par Catherine Destivelle. Donc, c'est Mirella Tanderini, une Italienne, qui a refait une enquête auprès des familles des 8 femmes soviétiques et qui essaie de raconter à sa manière, enfin, elle les fait aussi parler, elle leur fait dire en quelque sorte ce qui s'est passé, quoi. C'est une démarche qui est, je veux dire, qui est délicate. En même temps, elle nous dit « j'interdis que les hommes nous jugent ». Ça commence comme ça. « J'interdis aux hommes de dire quoi que ce soit parce que leur sport est une entreprise de mort ». Et après, on voit ce livre soviétique, ce livre pour enfants, qui montre que chaque discipline olympique n'a de sens que si elle est une discipline militaire derrière. Donc voilà, ça me permettait, si vous voulez, en quelque sorte, d'introduire ce livre que je trouve grave et important et de se dire, après tout, on n'a pas à juger de ce qui s'est passé. Elles ont fait des choix et je pense qu'elles ont pensé faire les bons choix dans leur succession de mauvaises décisions, en fait, tout simplement. Et je crois qu'elles étaient forcément sous influence. Voilà, c'est ce que le film essaie de dire. Vous avez été choqué?
Non, pas choqué, mais je m'interrogeais par rapport à cette voix. Après, effectivement, j'ai eu l'occasion en 2017 d'aller là-bas et d'aller en Russie, de donner des cours de graphisme sur des thèmes, de réalisation d'affiches sur la peine de mort, sur l'égalité homme-femme. Et j'ai pu constater à quel point, effectivement, on regardait les choses avec notre regard et notre culture et ce qu'on avait comme information, alors qu'eux, évidemment, avaient un tout autre regard sur les mêmes événements et les mêmes choses. Et donc, je comprends tout à fait cette démarche de les faire parler en disant ne nous jugez pas.
Voilà. D'accord, très bien, oui, je comprends mieux.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'ai une question. Je tiens à vous laisser la parole si vous le souhaitez, mais peut-être en revenant sur davantage le concerto d'Alaska et peut-être plus globalement sur le statut d'être à la fois alpiniste et cinéaste. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... c'est évidemment autre chose que d'être cinéaste en haute montagne, oui. Que d'être cinéaste ou chef opérateur dans un studio où tout est contrôlé, etc. Oui. Déjà, peut-être avec quel matériel? On voit que dans le concerto d'Alaska, il m'a semblé entendre un petit peu de son direct. Est-ce qu'il y avait quand même donc un petit peu d'équipement sonore? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette...
Bon, je vais commencer par fuir la question. Non, mais ça me permet de reparler du film de Gaston Rébuffa qu'on avait vu avant, effectivement. C'est qu'on a peu eu l'occasion de le dire, mais dans le film de Gaston Rébuffa, il y avait Georges Terraz, Pierre Terraz, René Vernadet. Bon, René Vernadet est celui après qui a fait presque tous les films de Gaston. C'est des gens qui engagent énormément, quoi. C'est-à-dire ils ont une haute compétence alpinistique, c'est vraiment des très très bons alpinistes. Et par ailleurs, ils s'engagent beaucoup, quoi. Je me souviens quand je parlais avec René Vernadet, il me disait par exemple, quand j'ai filmé Gaston dans la face est du Grand Capucin, j'étais en cordée avec eux, et puis de temps en temps, il fallait que je sois sur le côté. Alors, il me laissait un relais tout seul, et puis j'espérais qu'il viendrait me rechercher. Et il se retrouvait au milieu d'une face avec 400 mètres de vide. Et on voit bien, quand ils sont dans la face nord des Grandes Jorasses, à un moment donné, Maurice Baquet dit « on prend les traces de Georges Terras », ça veut dire qu'ils sont passés avant, et qu'en fait, c'est les cinéastes qui ont fait la trace, quoi. Voilà. Alors les situations dans lesquelles on se trouve quand on est cinéaste, bon, je les ai souvent en cours derrière, parce que contrairement à la photo, le cinéma, ça prend, c'est en temps réel, on filme en temps réel. Donc c'est pas au 250e de seconde, mais si on fait un plan de 30 secondes, ben, en 30 secondes, les autres, ils sont déjà loin souvent, quoi. Et ça pose vraiment la question d'être dans des équipes qui ont intégré cette dimension-là et qui nous laissent effectivement tantôt prendre du champ, qui nous protègent aussi, hein. Moi, j'ai beaucoup filmé avec Michel Berquet dans les deux films là, et on se protégeait beaucoup mutuellement, parce que quand on est dans la concentration de la prise de vue, on oublie le risque, on oublie le danger. Donc c'est important de pas être seul et d'avoir des équipes sur lesquelles on peut vraiment compter. Maintenant, sur le matériel, de mémoire, on a filmé uniquement en muet dans Concerto d'Alaska. Donc en pellicule 16 mm avec des caméras 16 mm, quand même relativement, qui font un certain poids. Surtout la difficulté de pouvoir changer les bobines à l'abri, dans le noir, dans un sac, etc. Donc des manœuvres qui sont assez longues et compliquées pour changer les bobines. C'est surtout le changement de bobines qui posait question. Et il y a du son direct, comme vous l'avez dit, mais en fait, c'est de la post-synchronisation. On faisait beaucoup de post-synchro, évidemment, parce que c'est fait au montage.
Et alors, on imagine que, bien sûr, tout ça est une histoire enfin, c'est lié à l'histoire technique du cinéma, mais il y a sans doute des moments où le cinéma, à un moment, il s'arrête. Enfin, surtout, on peut peut-être penser au cinéma argentique,
oui.
Avec les très très basses températures, voire, voilà. Est-ce que tu peux nous parler
aussi
alors,
ces expéditions-là, effectivement, le cinéma, c'était en plus, hein, en quelque sorte. Bon, ce n'était pas forcément le but ultime. Même si je considérais qu'il fallait que je m'investisse beaucoup dans cette partie-là, parce que c'est ce qui me passionnait le plus, c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais quand il y a des questions de sécurité, pour le groupe, hein, et bon, bah, c'est d'abord, on est d'abord des alpinistes avant d'être des cinéastes. Parfois, il faut oublier effectivement le film. Il y a souvent des grands moments, les moments où on équipe la paroi, par exemple, on n'emmène pas la caméra, quoi, c'est clair.
Bien. Oui.
Une question sans doute naïve, mais pour le pic de Lénine, est-ce qu'il y a eu besoin d'autorisation pour filmer? Comment c'était reçu par les autorités locales? C'était...
Par les autorités locales?
Oui, par les autorités soviétiques. Oui. Est-ce qu'il fallait des autorisations de pouvoir filmer, est-ce qu'il y avait des conditions particulières?
Alors, dans ce genre de rassemblement, là, on faisait ce qu'on voulait. Hein. Là, vraiment, c'était tapis rouge. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Bon, d'abord, à ce camp de base, c'était quand même ambiance champagne de Crimée à volonté. et caviar servi à la louche, pris dans un grand tonneau, et on venait avec nos gamelles pour le caviar. Donc c'était quelque part une réception un peu fabuleuse, quoi. Pour filmer, on n'a jamais eu aucun problème. J'ai récupéré en grande partie les images où il y a les femmes, c'est les images que les Soviétiques avaient faites. Ce film a pu être une copie a pu être sortie. Il n'y a jamais eu de contrôle d'aucun type sur quoi que ce soit. On peut dire que vraiment, on a fait en gros ce qu'on a voulu, quoi. Par contre, ce qui était un peu délirant dans l'histoire, c'est que quand on est redescendu de l'igloo dans lequel on était et où on entendait les femmes qui mouraient les unes après les autres, quand on arrivait au camp de base, c'était la fin du rassemblement. La fête avait commencé. Les officiels soviétiques arrivaient pour faire la fête, pour remettre les médailles, ils arrivaient en hélicoptère. Il n'y avait jamais eu aucun hélicoptère, on n'a jamais vu aucun hélicoptère, aucun moment des sauvetages qu'on a pu faire. Et on a appris que l'agence TASS avait publié que les Français avaient été particulièrement poltrons au moment où il fallait partir en sauvetage, alors qu'on était l'équipe qui est partie sur tous les sauvetages. C'était très très curieux. Il y avait en plus une fascination complète des Soviétiques pour les Américains, pour l'équipe américaine. Il y avait quelque chose de d'étrange, quoi, dans lequel on s'est pas véritablement retrouvé, quoi. Bon, quand j'ai sorti le film, je me suis dit je vais avoir les pires ennuis avec le KGB. Et puis en fait, il y en a peut-être dans la salle. Mais voilà, ce film. Alors, sa réception est intéressante, sa réception par ailleurs, quoi. C'est-à-dire le Parti communiste français, par exemple, ils avaient un responsable des sports qui s'appelait Zedmer à l'époque, et il a dit que c'était de l'anticommunisme primaire. En Italie, il a été refusé par le Festival de Trento, alors que mes films étaient pris généralement, parce qu'ils ont trouvé que c'était un film trop politique. Donc c'est l'université de Trento qui s'est emparée du film et qui l'a passé. Et là, on a eu une réaction du Parti communiste italien qui a dit exactement l'inverse du Parti communiste français. C'est-à-dire que c'était un film extrêmement intéressant, voilà, qui apportait vraiment un regard sur le rapport sport et idéologie, quoi. Donc c'est assez curieux de voir comment en fait les réceptions ont été très très différentes, très très opposées, etc. Bon, ça veut dire qu'il y a du débat possible, quoi.
Bon, juste une remarque. Tu as dit que quand tu étais en montagne, tu étais alpiniste avant d'être cinéaste. Mais je constate que, retour à la maison, tu es beaucoup plus cinéaste qu'alpiniste. C'est-à-dire que ce qui peut étonner dans le deuxième film, pas dans le film sur l'Alaska, mais dans le film sur le pic Lénine, c'est que finalement, on a l'impression que la montagne n'est qu'un prétexte pour des réflexions sur la société russe, etc. Et donc, c'est plus, je dirais, justement, je comprends que le festival de Trent n'en ait pas voulu. On a l'impression qu'on est loin
de la montagne.
D'un film de montagne au titre ce que faisait Rébuffat. Quoi. Tu vois, c'est, disons qu'il y a de Rébuffat, ensuite on passe à l'Alaska qui est mixte, et celui-là qui est 80% hors montagne. Quoi, c'est mon point de vue. Hein.
Oui, alors bon, c'est... Bon, moi, je suis beaucoup sous influence cinématographique, hein, bien entendu. Donc, je souhaitais tenir un propos qui correspondait aussi à ce que j'aimais dans le cinéma. J'étais nourri un peu des images de McLaren, etc., dans le cinéma d'animation. Et c'est vrai que j'en ai profité puisque j'étais avec une équipe de réalisateurs qui venaient des Beaux-Arts et qui avaient fait une école assez prestigieuse de cinéma d'animation. Donc j'étais amené vraiment à travailler dans ce sens-là avec eux et à retravailler l'image, à requinquer l'image, etc. Alors, est-ce que ce sont des films de montagne ou pas ? Alors, bon, dans le Dico Vertigo que j'ai commis, donc Dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films, j'insiste bien sur le fait que c'est la montagne au cinéma qui est en quelque sorte ma priorité de réflexion, et non pas le cinéma de montagne. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de voir comment la montagne va avoir une fonction particulière à l'intérieur d'un film, alors que ce n'est pas forcément un film de montagne, mais qui a une intervention volontaire du réalisateur, d'usage de la montagne pour traduire, dire quelque chose, l'utiliser comme allégorie, l'utiliser comme décor, l'utiliser pour renforcer une ambiance, etc., quoi. Donc, c'est pas un film de montagne, alors.
Il y a quand même, j'ai l'impression, chez toi, quand même une... Bon, aussi, c'est peut-être générationnel, c'est peut-être aussi politique, mais d'avoir toujours une volonté réflexive, d'aller un peu contre les conventions du cinéma de montagne. Par rapport à ce que peut-être ce que pouvait faire le film que nous avions montré ensemble de Jean-Jacques Langevin, dont le titre m'échappe, mais qui était très lourd de clichés, etc. Donc il y a
est-ce que c'est aussi une volonté
de contrepoint, ouais, en tout cas
dans le tout premier film que j'ai fait, qui est un film disparu, que nous avons fait avec Pierre Zarathustra, donc qui est ici, qui s'appelait L'aventure encordée. En fait, on avait entrepris dans ce film-là, notamment à l'occasion de l'Ascension des Écrins, d'illustrer la Symphonie des Alpes de Richard Strauss. Et puis, je faisais dans la première partie l'Ascension solitaire de la face ouest de la Zibona. Et là, on avait utilisé une musique de Smetana. Et ce film-là, c'était un film qui était, je dirais, dans l'esprit Rebuffa. Mmh, mmh. C'est-à-dire un film à caractère plutôt didactique, qui cherche quand même à montrer la joliesse des lieux, à nous mettre dans une ambiance montagne. Mais j'ai ressenti très fort assez vite après, avec l'aventure de l'Annapurna puis celle du pic Lénine, que il y avait un propos politique à tenir, quoi, en quelque sorte, et que ce qui m'intéressait de montrer dans les festivals de films de montagne, c'était effectivement une approche plus cinématographique, plus ancrée dans l'histoire du cinéma que dans l'histoire du cinéma de montagne, quoi. Mais bon, voilà, aussi, ça se fait comme ça. Je veux dire, c'est aussi les inspirations à un moment donné, quoi.
Un petit peu de déconstruction, quand même.
Peut-être que Benoît veut dire des choses.
Qu'est-ce que tu veux que je raconte ?
T'es un juge redoutable, hein.
Non, mais... Non, que la montagne est très dangereuse. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que... Non, l'épisode soviétique est intéressant, mais pas de la manière dont tu l'as dit. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui ? Vous aimeriez dire quelque chose ? Oh ben, vous avez la parole. Vous me sortez de l'embarras. Merci. Allez-y.
Je veux vous sauver.
Oui.
Juste, pendant que je regardais le dernier film, il y avait une phrase du film précédent qui n'arrêtait pas de me hanter, à savoir, on dit parce que c'est une femme qu'elle est là pour faire la soupe et qu'elle ne va jamais arriver en haut de la montagne. Et moi, je me suis un peu demandé si le gaz ne se raréfiait pas aussi quand on avait affaire à une équipe féminine, deux, une équipe soviétique, alors qu'il y a quand même d'autres qui sont morts aussi. Je veux dire par là que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié à la fin que la voix féminine dise enfin qu'elle était morte et qu'on n'avait pas le droit de la juger, parce qu'au début, je me suis demandé, vu qu'on lui donne un accent russe, je me suis demandé si ce n'était pas une interview. Et là, je trouve qu'il y a un peu, trouble dans le film. Parce que quand on fait parler des gens qui sont morts, soit on les fait parler avec leurs vraies paroles, ça, pas de problème, soit on dit clairement que ce ne sont pas leurs vraies paroles. Moi, j'ai été très, très gênée par ça.
Bon, c'est justement, en fait, ce que moi, j'essayais de dire différemment. C'est-à-dire que quand je dis que ce n'est plus un film de montagne, c'est une fiction. Sachant que les films de montagne sont souvent des fictions. Tu vois deux personnes grimper, mais tu ne vois pas qu'ils ne sont pas que deux, il y en a quatre ou cinq. Et donc, c'est toujours de la fiction. Mais celui-là est une fiction totale. C'est-à-dire que finalement, les voix ne sont pas forcément les mêmes voix, les sons ne sont pas les mêmes sons, tu vois. Mais je te dis, c'est du cinéma. C'est du vrai cinéma que chez toi tu as créé un film. C'est une œuvre artistique, mais loin de ce qu'est quoi. Moi, ayant vécu là, à peu près la même expédition un peu plus tard, je reconnais pas ce que j'ai vécu au pic Lénine ou au pic Korzhenskaya. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne ressemble absolument pas à ça. D'ailleurs, j'ai pas été au cirque moi quand j'étais à Moscou.
Oui, alors c'est vrai que, bon, sur le plan formel, il y a deux choses, hein. Il y a le plan formel et le plan éthique, je dirais. Hein. Bon, sur le plan formel, assez vite, ce qui m'a servi un peu de repoussoir quand je faisais des films, c'est-à-dire ce que je ne voulais pas faire, c'était les films de connaissance du monde. C'est-à-dire des films qui sont quand même souvent des clichés géographiques, des clichés par rapport aux populations, etc., et qui sont avec un discours au premier degré. Voilà. Ce que je ne voulais pas faire non plus, c'était du reportage. Bon, notamment parce que, comme on filme essentiellement à cette époque-là en muet, qu'on reconstitue à peu près tout le reste après, ça veut dire que ce serait du faux reportage. Donc plutôt que du faux reportage, je préfère aller vers le docu-fiction. Donc quand tu dis c'est de la fiction, moi je veux bien qu'on dise que c'est du docu-fiction. Par exemple, après j'ai fait les Phasmes, qui est sur l'ascension du Ruwenzori. Et les Phasmes, bon, je les ai mis volontairement 7 jours, etc. C'est un docu-fiction. Il y a des masques aussi, il y a différentes choses. Voilà. Donc effectivement, le docu-fiction, c'est-à-dire qu'on prend une partie la plus forte de la réalité, et à partir de là, on engage un point de vue personnel, voire une esthétique personnelle. Voilà. Alors, ça, c'est le point de vue formel. Maintenant, il y a le problème éthique que pose madame. Alors, effectivement, c'est tangent. Je suis d'accord avec vous. Le fait, si vous voulez, de faire parler les morts, bon, c'est la même voix, par exemple, qui lit les livres soviétiques. À un moment donné, il y a tout un livre sur la Kirghizie, par exemple, qui est lu, où on nous dit que la Kirghizie, bon, c'est un pays très développé, merveilleux, bon, voilà, il y a des automobiles, il y a des habitats nouveaux, etc., etc. Bon, c'est la même voix qui le lit. Donc, c'est un artifice que j'ai utilisé, mais je veux dire, l'artifice, il se révèle. J'interdis aux hommes, de dire les raisons de notre mort. Donc la première phrase, elle vient effectivement dire on est dans un artifice. Non, c'est la première, de tout le discours de la fin. C'est-à-dire qu'elle intervient...
Non, je vous ai posé cette question, pardonnez-moi, mais oui. Excusez-moi, mais je vous ai posé cette question parce que justement, au tout début, on voit la photo de la femme et on entend la voix qui dit « Voilà, j'ai grandi comme ça, ma mère ceci, ma mère cela... » elle était pauvre, donc j'ai pu faire des études. Et donc, je me suis
Ah oui, d'accord, vous avez raison.
Demandé,
vous avez raison.
Je me suis vraiment
oui.
demandé... Non, mais je
oui,
suis
oui.
très attentive
oui.
au film. Hein.
Donc, vous avez marché à fond, vous avez marché à fond sur cette partie-là.
Je me suis interrogée.
Oui.
Très fort.
D'accord.
Et je n'ai eu la réponse que...
Que dans le dernier discours.
Fin,
d'accord.
Fin.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que je posais la question, parce que... je trouve que pendant un long moment, on reste sur une question. Moi, je me la posais. Je me dis que certaines personnes, entre la photo et la voix à l'accent russe, doivent forcément se dire « Oh ben, c'est un entretien qu'elle a donné avant de partir. »
D'accord,
parce que ça
oui,
ressemble,
tout à fait.
Ça ressemble tout à fait à ça.
Oui, oui.
Hein. Et ensuite... je vous dis, je trouve que c'est un peu tardif la manière de dire, mais bon, c'est mon ressenti. Hein.
Non, mais je sais que j'ai joué sur un fil. Hein. J'ai vraiment joué sur un fil hein, avec cette histoire. Hein. Donc, c'est vrai que parfois, on peut tomber d'un côté.
Après, il me semble aussi que c'est ce que tu as dit en je ne vais pas faire l'avocat, mais disons que tu as quand même parlé de que tout le film, c'est la reconstruction, et peut-être ça nous renvoie encore à la fiction, d'un univers mental, de qu'est-ce qui compose une conscience.
Oui.
Donc du coup, il me semble que cette idée de reconstruction, de fiction, me semble, elle n'apparaît pas là. Elle apparaît dès le début, elle apparaît avec quand la poupée russe et tout rentre de ce qui constitue une conscience soviétique, on va dire, à l'époque. Bon. Après, là, on est dans des subjectivités, bien sûr.
Oui, tout à fait. On essaie d'entrer dans une subjectivité. Hein. C'est évidemment la démarche du film, de savoir quelle peut être la subjectivité qui fait que on est construit comme on est construit, que les décisions qu'on prend, qui peuvent être des décisions vitales, quoi.
Il y a quelque chose de plus objectif, c'est le temps. Et nous allons devoir nous arrêter. Pardon, c'est un peu abrupt comme
oui.
ça. Mais oui, vous voyez, hein, je travaille, mais mes chutes. Je voudrais vraiment te remercier beaucoup, Bernard. C'était absolument passionnant de voir tes films, de t'écouter, de t'entendre. Et voilà, merci beaucoup et
merci.
J'espère à bientôt.
Merci Arnaud.
Voilà.
Merci à ce grand public. Bonne soirée, bon retour. Et si vous voulez prolonger, je suis encore là quelques instants. Hein.